Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur Radio Évasion pour ce 5e numéro de Bien au contraire, l'émission qui réfléchit sans en avoir l'air. Bienvenue sur Radio Évasion dans le calme et la sérénité d'une belle journée de printemps, d'un calme serein qui ne pleut presque pas sur la Bretagne, calme et sérénité qui ne seront pas du luxe vu notre thème d'aujourd'hui, l'hystérisation de la société. Il faut bien admettre que le pitoyable spectacle offert par les soi-disant débats télévisuels où les experts en tout se postillonnent dessus en vociférant dans de certitudes incompréhensibles. Guère mieux sur les réseaux sociaux, sur lesquels un tweet, un post, un com en apparence anodin peut se trouver pris au milieu d'une meute agressive ayant oublié le plus souvent, quand ce n'est pas de la mauvaise foi pure, la définition de second degré. Avec nous pour analyser ce fléau, Jonathan Curiel, homme de médias, auteur d'un essai au titre sans équivoque, La société hystérisée, paru aux éditions de l'Aube dans la collection Suspension. Bonjour Jonathan Curiel.
Bonjour.
Alors, dès l'introduction de votre essai, vous déplorez une certaine violence des rapports sociaux, sans mesure, sans nuance, brutale, presque incontrôlée, qui marque notre époque. Mais ces violents antagonismes n'existent-ils pas depuis toujours ?
Oui, effectivement, il y a toujours eu de violents antagonismes au sein des différentes sociétés dans notre histoire. Ce que je pointe aujourd'hui, c'est qu'avec un certain nombre de nouveaux, l'offre de médias pléthorique, le développement considérable des réseaux sociaux et la polarisation beaucoup plus importante de notre société aujourd'hui, fait que cette hystérisation, c'est cette perte de nuance, ce débat devenu incontrôlé, cet emballement qui s'empare de la société est devenu me semble-t-il, beaucoup plus important que par le passé.
Oui, est-ce que c'est pas le fait qu'il y a une beaucoup plus grande accessibilité ? C'est-à-dire qu'avant, nous, ici, dans notre campagne, les violences parisiennes passaient à arriver avec 3 mois de retard. Là, aujourd'hui, on le sait dans la seconde.
Oui, alors vous avez tout à fait raison, c'est un très bon point, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, du fait des médias en continu et notamment des réseaux sociaux, alors les réseaux sociaux, il faut pas non plus jeter le bébé avec l'eau du bain, parce que à titre personnel, je trouve que ça a permis une sorte d'émancipation de la parole et la démocratisation de la parole, le fait que les gens peuvent donner leur avis, qui est d'ailleurs tout à fait légitime et souvent plus légitime que certains experts qu'on voit partout. Donc ça, c'est quand même l'aspect positif des réseaux sociaux. Et en même temps, ça a banalisé les prises de parole qui peuvent être extrêmement violentes, qui peuvent aller dans tous les sens, où on a une espèce de culture du clash et d'une certaine perte de nuance s'est développée, et également allant de pair avec une immédiateté et une vitesse sans équivalent. C'est-à-dire que, et on le voit d'ailleurs aujourd'hui, par exemple pour les grèves, on n'en parle même pas, mais aujourd'hui on peut décréter une grève sur les réseaux sociaux, une mobilisation en 2-3 heures. C'était pas le cas il y a quelques années. Donc on voit qu'aujourd'hui tout s'emballe, tout s'accélère, et cette vitesse et cette immédiateté contribue à cette hystérisation, à cet emballement, à cette folie.
Ouais, justement, en parlant de folie, parce qu'hystérisation, c'est un terme psychiatrique, et qu'on attribuait, ça vient du utérus, hein, qu'on attribuait à la femme. Et est-ce qu'il n'y a pas une connotation un peu péjorative, dire c'est un peu se conduire comme ce qu'on disait avant, se conduire comme une femme. Alors, est-ce que ce ne serait pas plutôt de la dramatisation?
Alors oui, absolument, vous avez raison. Moi, j'ai utilisé le verbe, en fait, je dès les premières pages du livre, d'ailleurs, je préfère régler le problème de l'hystérisation et de son origine étymologique, effectivement, qui est féminine. Je cite un certain nombre de scientifiques et de médecins qui ont ensuite arrêté de faire ce lien entre un comportement, qui aurait trait à un comportement particulièrement féminin, ce qui est faux, malgré son origine étymologique. Mais c'est vrai que j'avais envie, avec ce terme qu'on lit à tort et à travers. Il n'y a pas un article dans lequel on lit pas le mot hystérisation. Il n'y a pas un débat entre politiques où on se sert de l'hystérie de dire oh le débat est hystérisé, donc du coup je n'y participe pas. Et donc c'est devenu un mot un peu valise et j'ai réalisé qu'il n'avait jamais été ni analysé, ni disséqué, ni défriché. Et j'ai eu envie à travers ce petit essai de faire un peu le point sur cette notion et de donner un peu du corps à un terme qui est un peu galvaudé et dont l'origine étymologique est d'ailleurs être un contresens. Donc c'est pour ça que j'y suis allé. Et effectivement, vous avez raison, c'est une dramatisation, c'est une brutalisation aussi de nos rapports sociaux, c'est une perte de nuance. C'est d'ailleurs à la base aussi le sens plutôt d'hystérie, c'est un trouble de la personnalité.
C'est névrose.
C'est une sorte de névrose d'ailleurs. J'en affublerai pas Trump, mais c'est vrai que par exemple on voit Trump aujourd'hui ces derniers jours revenir encore dans l'actualité. Il y a un certain nombre de traits caractéristiques psychologiques qui peuvent faire penser à aux différentes caractéristiques de l'hystérie.
Oui, la débilité aussi, mais bon, c'est autre chose. Mais
c'est vrai qu'il y a à travers des réactions, qui dit hystérie, dit réaction émotionnelle excessive, et c'est vrai qu'on en retrouve un certain nombre à la fois dans la société et à travers la personnalité de Trump.
C'est une réponse erronée à de véritables problèmes, de véritables angoisses, les manifestations hystériques. Mais quand on parle de gouvernement, par exemple, de gouvernement de l'émotion, c'est pas quelque chose qui est faux. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, il y a quand même une façon de se servir des émotions pour éviter les débats de fond. On se sert de l'émotion dans des buts électoraux, on fait monter en épingle des faits divers ou des faits de société dont on évite de parler d'ordinaire parce que les électeurs pourraient vous reprocher de ne rien faire, et on les fait monter en sauce juste avant les élections pour dire « il est grand temps de faire quelque chose, élisez-moi, moi je vous promets que ça va changer ».
Oui, bien sûr. Alors ça, c'est absolument ça. Et puis je trouve que depuis, on va dire, une vingtaine d'années, on fait face à un règne de l'émotion. Il y a Pascal qui faisait la différence dans ses écrits sur entre la raison et la passion, notamment dans le gouvernement politique et le gouvernement des affaires du monde. C'est vrai qu'aujourd'hui l'émotion prend une part beaucoup plus importante. Vous parliez des faits divers, ça avait été le cas notamment, si j'ai bonne mémoire, lors de l'élection du deuxième mandat de Chirac, oui. Où on avait
il y avait un conseil municipal qui avait été attaqué,
absolument, et on avait monté en épingle à Saint-Anne de faits divers. Effectivement, aujourd'hui des citoyens et un public beaucoup plus dans l'émotion et qui a pris une part plus importante dans la prise de décision. Et cette émotion nous pousse à réagir en première instance. Cette émotion nous pousse à suivre nos instincts plutôt que notre raison, notre rationalité, et réfléchir avec des arguments pesés, nuancés. Effectivement, cette émotion est de plus en plus importante. Et je reviens à Trump. J'en reviens aux dernières élections au Brésil entre Bolsonaro et Lula. J'en reviens à tous les débats qu'il y avait pendant le Brexit avec Cameron, puis Johnson qui mettait la pression après. On voit aujourd'hui que dans les différentes élections, les différents référendums, l'émotion prend une part de plus en plus importante, et celle-ci est aussi relayée par les médias.
Et en plus, il y a un phénomène qui existe là, aujourd'hui, à notre époque, c'est la montée du fanatisme religieux. C'est-à-dire qu'aussi bien pour Trump que pour Bolsonaro, les évangélistes sont derrière, on le sait. Ils ont fait énormément de travail pour que ces deux-là soient élus. C'est pas un hasard, quoi. Et donc, il y a quand même tout se confond. Et ça joue aussi dans la dramatisation, c'est que tout se vaut et tout se confond.
Exactement, il y a un phénomène de relativisme, et cela rejoint votre constat sur la prise de la montée en charge de l'émotion, tout ce qui est effectivement religion,
par définition n'a rien de rationnel.
N'est pas effectivement rationnel, après c'est libre à...
Ah oui, bien sûr, mais c'est pas rationnel.
Mais c'est vrai, effectivement, là on est plutôt on est dans l'émotion, on se sert de cette part émotionnelle, et on polarise d'autant plus la société avec des blocs très distincts de part et d'autre. On le voit d'ailleurs sur les réseaux avec le phénomène qu'on appelle de bulle cognitive, où vous restez dans une sphère d'opinion... souvent émotionnelles d'ailleurs, qui correspondent à ce que vous pensez. En gros, quand vous allez sur Facebook, vous allez sur Twitter ou d'autres réseaux sociaux, peu importe, vous avez tendance à ne recevoir que des informations qui vous confortent dans votre point de vue et donc qui vous fait discuter, échanger avec des gens qui partagent les mêmes points de vue que vous.
Mais
et
ça existait un petit peu avant aussi, ça, où chaque fraction de la population, ne serait même au début du XXe siècle, avait son journal. Il y avait des dizaines et des dizaines de journaux anarchistes, de journaux communistes, de journaux de droite, de journaux royalistes, journaux catholiques, etc. C'est-à-dire que les réseaux sociaux font que chacun fait son petit journal.
Oui, les réseaux sociaux font que chacun fait son petit journal. Si ce n'est que vous avez quand même, à la différence de l'époque où vous aviez quand même un libre arbitre, vous sortiez des sous de 20 billets de votre poche pour acheter votre journal. Aujourd'hui, ces informations, elles vous sont poussées par un algorithme qui fait que vous les recevez de manière automatique. Et que, du coup, le jour où vous avez envie d'acheter un autre journal ou vous avez envie d'avoir une autre information, vous avez plutôt tendance à consulter ce que l'algorithme vous envoie et qui correspond, grosso modo, à ce que vous pensez.
Ouais, vous n'avez plus la vitrine, quoi.
Vous n'avez plus la vitrine, vous n'avez plus choisi, ou alors, à l'inverse, d'ailleurs, les algorithmes sont redoutables, vous envoient des informations radicalement opposées à ce que vous pensez, qui du coup créent, vous rebutent et créent un phénomène de rejet massif.
Mais est-ce que justement le rôle du politique, ce ne serait pas de faire cesser cette confusion générale et de revenir à des réalités plutôt que de s'en servir dans des buts électoraux ou dans le but de faire passer une réforme dont personne ne veut. Est-ce que le rôle du politique, ce serait pas justement de ramener la raison ?
Le politique, normalement, doit faire venir ramener la raison avec des explications claires, avec de l'approfondissement des phénomènes sociaux, avec des débats publics, en impliquant les gens dans la prise de décision. Moi, c'est ce que je défends dans le livre, c'est-à-dire que je trouve que... Oui. On est dans un système où on élit un président, où on a une élection tous les 5 ans, on a des députés, mais je pense que les citoyens ont envie, et ce serait nécessaire à la démocratie, de les impliquer plus dans les choix qui sont faits, dans la prise de décision politique. Et ça ne doit pas se limiter à des conventions citoyennes ou à des rassemblements de citoyens tirés au sort pour décider de telle ou telle mesure, ou en tout cas pour donner un premier élan. Mais je pense qu'il faut les consulter de manière beaucoup plus rapprochée et de manière beaucoup plus régulière, parce qu'aujourd'hui, une démocratie avec des réseaux sociaux où tout le monde donne son avis tout de suite, en tout cas son opinion, si je suis contre le règne de l'opinion, le politique devrait consulter les citoyens de manière plus régulière. Alors est-ce que c'est, je ne sais pas quelle est la forme, je ne suis pas politique, est-ce que c'est des référendums plus fréquents, est-ce que c'est ce qu'avait fait Macron pour le grand débat, mais de manière concrète, avec une application et une prise de décision claire, une implication des gens, je ne sais pas quelle forme ça devrait avoir, mais en tout cas... Il faudrait que les citoyens soient plus impliqués.
C'est une revendication récurrente.
C'est une revendication récurrente, mais qui, pour le coup, ne trouve pas de voie de sortie, qui ne trouve pas de résultats concrets depuis un certain nombre d'années. Et puis, par ailleurs, il y a aussi quelque chose qui est intéressant, c'est-à-dire que le politique, il est censé, ça c'est il y a un philosophe allemand qui s'appelle autrichien d'ailleurs, qui s'appelle Habermas, qui est très fort et qui considère que le débat politique n'est pas assez approfondi et pas assez clair. Les politiques une fois qu'on considère que la société est polarisée, voilà, ça c'est un fait aux États-Unis, en France, en Angleterre, voilà, au Brésil, nous vivons aujourd'hui dans des sociétés extrêmement polarisées avec des gens qui peuvent plus s'encadrer, plus voir les uns les autres. Voilà, aujourd'hui le politique, il doit mettre les problèmes sur la table, les expliquer, aller au fond, expliquer clairement les choses. Moi je sur la réforme des retraites, j'ai pas compris.
Ouais, elle n'était pas négociable dès le départ.
Oui, mais surtout, pourquoi on fait ça? Quel est le but? Quelle histoire on raconte aux gens? Pourquoi on le fait? Et pourquoi c'est urgent? Pourquoi c'est important? Pourquoi ça ne l'est pas? Aujourd'hui, il faut formuler les choses clairement. Je donne de temps en temps l'exemple de la Suisse, par exemple. Je dis pas absolument pas que c'est un modèle à suivre. C'est un petit pays qui est pas comparable à la France. Mais ils ont un système de votation citoyenne où ils s'expriment de manière régulière sur un certain nombre de mesures. Ils reçoivent un mois avant la votation un petit fascicule dans leur boîte aux lettres, par mail et également de manière papier sur pourquoi on réforme l'hôpital, le plus, le moins, de manière extrêmement neutre, ce que ça résout, ce que ça résout pas. Mais au moins, il y a une base commune pour tout le monde et on sait ce qu'on fait et on sait à qui ça s'adresse et on a des explications. Je trouve qu'aujourd'hui, dans le paysage politique français, politique au sens large, hein, pas les hommes, les politiciens, tout cela nous manque.
Ben moi, ce que je me rappelle que j'étais plus jeune, c'est que tous les ans, avant chaque échéance, on avait par exemple le programme politique du Parti socialiste. On avait le programme politique de la droite. C'était des choses concrètes en plusieurs points. Il y avait 101 ou etc. 101 points. Mais on n'a plus ça. Il n'y a plus de programme. En fait, les débats, c'est abattre. Le but du débat, c'est d'abattre l'autre, c'est de le disqualifier.
Exactement. Aujourd'hui, on est dans une espèce de guerre de coq ou de guerre de chapelle où on fonctionne par clash, on fonctionne par pour avoir le dernier mot face à un adversaire, mais on n'est jamais dans le débat constructif, on n'est jamais dans le débat d'idées, dans l'échange. De toute façon, on a une vision du débat. Je le dis également dans mon livre, c'est-à-dire qu'il faut qu'on change de logiciel pour la notion de débat. Aujourd'hui, on est dans un ring. On le voit dans un certain nombre d'émissions de médias. On le voit d'ailleurs à la radio. On le voit sur les réseaux. Le débat, c'est pas un ring, c'est pas un match à points. Le débat peut être constructif. On a le droit de finir par être d'accord ou en tout cas essayer de trouver un consensus. Aujourd'hui, le mot consensus, il est un peu péjoratif en France. J'ai l'impression que quand on est consensuel, on est tiède, on n'est pas forcément très courageux, on n'est pas assez tranchant. On est aujourd'hui dans une société du clivage. Il faut être cash, il faut aller au clash, il faut être dans l'affrontement. Moi, j'estime qu'aujourd'hui, on peut s'entendre, on peut s'écouter, et justement, c'est ça qui manque à la société, aux sociétés modernes et à la société française en particulier. Je cite dans le livre une expérience qui a été.
On en reparlera tout à l'heure.
D'accord. Mais tout ça pour dire, si vous voulez, que la qualité de la délibération publique, le fait de d'échanger et le fait de d'arrêter de considérer le débat comme un ring avec des où il faut remettre ses gants et abattre l'autre, on aura fait déjà un grand pas pour s'entendre et essayer de trouver un espace commun.
Mais est-ce qu'il n'y a pas justement quand même un rôle un petit peu délétère des fameux débats télévisés des chaînes d'infos en continu où les mêmes gens sont experts en tout, se hurlent dessus et plus ça hurle, meilleur c'est et plus ça fait monter l'audience. Est-ce que ça n'a pas participé à détruire la notion de nuance ?
Si, d'ailleurs. Mais vous remarquez, moi, alors c'est très vrai. Beaucoup d'émissions cherchent ça. Sur un certain nombre de chaînes d'information, on cherche aussi l'affrontement. On cherche le ce qu'on appelle la petite phrase, le petit dérapage, l'affrontement entre droite gauche. On veut ce qu'on appelle en télévision des bons clients, donc des gens qui se fassent remarquer sur les plateaux télé, etc. Donc tout ça, effectivement, contribue à créer un climat assez délétère. Généralement, on n'est pas dans le fond d'ailleurs. On est plutôt sur la petite phrase. On entend les voix monter et on discute rarement du fond.
De toute façon, on comprend rien.
Hein. On n'y comprend rien. De toute façon, c'est le royaume du vide. C'est-à-dire que vous pouvez passer une demi-heure, vous avez absolument rien appris. Vous avez entendu des voix monter d'un ton, des gens s'énerver. On peut enlever le son. Hein, c'est la même histoire. Ouais. Ça change rien du tout. Donc ça, effectivement, c'est un phénomène qui s'est accentué ces dernières années avec cette sanctification du clash et de l'affrontement. Néanmoins, il faut quand même nuancer ça. C'est-à-dire que je trouve qu'il y a beaucoup d'émissions à la télé, à la radio, qui sont beaucoup plus apaisées.
Exactement, c'est politique, par exemple.
On entend les gens échanger entre eux, discuter, aller dans le fond.
S'écouter.
S'écouter, c'est le cas de beaucoup d'émissions à la radio aussi, notamment sur le service public, et le succès, moi je le constate, que ce soit en télé, dans les magazines, les reportages, également en radio avec les podcasts, il y a une volonté pour un certain ralentissement, pour du temps long, pour des débats beaucoup plus apaisés, et ça, et tous les médias, ou les podcasts, ou les chaînes qui vont dans ce sens-là, de reportages à valeur ajoutée, une enquête plus poussée, des débats de fond beaucoup plus apaisés, pour l'instant, je constate qu'ils montent à la fois en audience, en qualité, et qu'ils se développent. Donc, il faut aussi nuancer le constat de médias qui ne seraient que dans le clash, parce qu'ils font aussi le socle de nouveaux médias ou alors de médias existants qui renforcent leur offre avec des débats beaucoup plus fournis, apaisés, avec du fond et qui rencontrent leur public. Preuve que les gens en ont un peu ras-le-bol, d'ailleurs.
Exactement. On va faire une première pause musicale avec un morceau qui figure dans votre essai, c'est « This is la peste, je pète les plombs », évidemment.
Exact.
Putain, je transpire, pire, je suis en translate. Transport bloque, ça klaxonne, ça fait deux heures que je n'avance qu'à petit feu, peu à peu, je pète les plombs. Le pauvre de derrière m'insulte et me traite de con. Sans les trous, sors de ma caisse, prends mon sac dans le coffre et me casse. Laisse ma caisse sur le périph', rien à foutre, je trace. Trop de stress, j'ai trop faim, il me faut un McDo, j'en trouve un rentre. Y'a une queue de bâtard, mais bon, je la fais. 30 minutes plus tard environ, je demande très poliment. Bonjour à Mac Morning, s'il vous plaît, quand elle me répond. Trop tard, désolé monsieur, il est midi. Et après-midi, eh bien le Mac Morning c'est fini. Je lui dis, quand je vous ai demandé, il était 11h59. Faites un effort, je veux un morning salé, vous savez celui avec l'œuf. Elle me dit, il est midi, je vous l'ai dit, c'est fini. Prenez un Big Mac ou allez voir ailleurs si j'y suis. Je lui dis, appelez-moi le patron n'est pas là. Ajoute, allez chez le chinois, vous pourrez peut-être prendre un plat. Je lui dis, deux secondes, sors de mon sac un calibré la braque. Les gens derrière, qui étaient si impatients, maintenant s'écartent. Elle me dit, ok, prenez la caisse, moi je veux pas mourir, y'a plein de billets, plein de pièces. Je lui dis, un Mac morning où je tire. Trois minutes après, ma bouffe est prête et je m'apprête à partir. Quand la pute me dit, j'ai mis un Big Mac, t'aurais jamais dû le dire. Je voulais juste un Mac Morning.
Je pète les plombs, putain, je pète les plombs. Putain, je pète les plombs, mais je pète les plombs. J'ai tout perdu, ma femme, mon gosse, mon genre. J'ai plus rien à perdre, alors suce mon zoop. Je pète les plombs, putain, je pète les plombs. Putain, je pète des plombs, mais je pète les plombs. J'ai tout perdu, ma femme, mon gosse, mon genre. J'ai plus rien à perdre, alors suce mon zoop.
Alors, je suis recherché et que les coffres me traquent. V'là qu'une meuf me drague, la go blague, me dit des trucs vagues.
M-D. C'est que t'es un beau blague. Non, je t'assure sans deck. Dès que je t'ai vu, j'ai oublié mon mec.
Je dis, de qui tu te moques? Toi, tu veux ma quéquette. Tu veux que je te foque, que je dépense plein de petites pépettes. Qu'une fois les couilles vides, je porte le même jean. Tu mets ton beurre, tes copines avec ma maille, vous direz chin chin, salope. Va voir ailleurs parce que moi je t'ai grillé. Mon ex m'a fait pareil.
Et alors?
Alors tu peux tailler. Au moment où je dis ça, le métro s'arrête et je m'apprête à partir. Quand elle a répondu un truc qu'elle aurait pas dû dire.
M-D.
Pour qui tu te prends? Mais c'est normal qu'elle t'ait jeté de façon avec ta tête de con. T'as dû tout lui acheter.
Et là, je suis un beau black.
Je pète les plombs, putain, je pète les plombs. Putain, je pète les plombs, mais je pète les plombs. J'ai tout perdu, ma femme, mon gosse, mon job. J'ai plus rien à perdre, alors suce mon zoop. Je pète les plombs, putain, je pète les plombs. Putain, je pète les plombs, mais je pète les plombs. J'ai tout perdu, ma femme, mon gosse, mon job. J'ai plus rien à perdre, alors suce mon zoop.
Je veux ta veste, tes baskets. Ton sac, ta carte de retrait, ton chéquier et ton sandwich.
C'est ce que le gars m'a dit alors que je rentrais au quartier. Je lui dis, laissez-moi, j'ai passé une sale journée. Ils me disent, s'excite et s'énerve tout seul. Me sort un mousse, fait le ouf et d'après lui, me pressionne.
Hey, je sais que dans ma tête.
C'est fou dans sa tête.
Je lui réponds, putain, espèce de sale timbanque. Arrête ton bluff, mec, je crois que tu braques une banque. Range ton canif, je sais pas, va faire une manif. Va t'acheter un soutif, espèce de petit travelot chétif.
Mais attends toi, tu viens de quel quartier?
Sortez ici.
Faut payer pour sortir entier.
Je lui dis, écoute mec, rien à foutre, nos quartiers soient en guerre. Attends, je vais te payer après tyranniquer ta mère. Sors mon sac de hockey, un harpon, il me dit.
Ah bon?
Moi je suis le genre de mec qui pète les plombs. J'ai tout perdu, ma femme, mon gosse, mon job. J'ai plus rien à perdre, alors suce mon zob. Le gaz baisse, je lui dis mais vas-y casse-toi. Arrivé à 100 mètres, ces petits PD me font des doigts.
Je pète les plombs, putain je pète les plombs.
Vous êtes toujours sur Radio Évasion dans ce cinquième numéro de Bien au contraire, consacré à l'essai de Jonathan Curiel, L'hystérisation de la société, paru aux éditions de l'Aube. Et nous avons déjà évoqué quelques raisons à cette montée de la violence dans les débats, sans aborder le rôle capital de l'ère de la post-vérité, de la vérité alternative, comme on veut, doux euphémisme servant à masquer des mensonges éhontés, parfois proférés par des hautes autorités. On a parlé de Trump, de Bolsonaro, groupes extrémistes, aussi bien islamistes que fascisants. Mais on l'a aussi vu en France avec des hauts personnages qui mentaient sous serment au Sénat. sans s'en cacher d'ailleurs particulièrement. Est-ce que vous ne pensez pas que ça participe aussi quand même à la montée du complotisme et donc de l'intolérance ?
Bah oui, bien sûr. C'est-à-dire que la post-vérité, d'ailleurs, qui est un terme assez récent, je crois que ça date de 2016. Ça vient du Royaume-Uni. Oui. C'est-à-dire que aujourd'hui, on peut dire des contre-vérités totales. Et à la différence de ce qui se passait à l'époque, aujourd'hui, c'est tout aussi vite oublié. C'est-à-dire que vous pouvez dire quelque chose de faux et les gens l'oublient et vous n'êtes pas sanctionné pour avoir dit une fausse vérité.
Je crois que c'est Georges Frêche en France, je sais pas si vous rappelez de cet homme-là, qui était député de Nîmes, qui disait tu peux dire absolument n'importe quoi, de toute façon ça marche.
Exactement. Voilà. C'est-à-dire que on peut et on l'a vu avec Trump, c'est-à-dire dire des choses fausses qui s'inscrivent d'ailleurs dans le post-vérité, s'inscrit dans ce que vous disiez tout à l'heure sur l'émotion, c'est-à-dire que la post-vérité s'inscrit dans ce nouveau règne de l'émotion où les médias et les réseaux s'alimentent de l'émotion, nous poussent à réagir en première instance effectivement, et cette post-vérité fait qu'à partir du moment où vous n'êtes pas sanctionné quand vous dites quelque chose de faux, du coup tout est possible.
Oui, ou vous ne revenez pas dessus, parce qu'on pourrait imaginer un mea culpa, ça peut arriver, le droit à l'erreur est quelque chose de tout à fait normal.
Non, et puis d'ailleurs, même dans le milieu médiatique, c'est intéressant, c'est-à-dire qu'il y a eu une mode, un moment de fact-checking sur les plateaux télévisés, où des gens vérifiaient en live ce que les politiques racontaient, ou ce qu'ils disaient, pour vraiment voir si les chiffres étaient bons, si une proposition de loi était exacte, etc. Mais ça n'a jamais vraiment marché, comme si il y avait le public ou les citoyens étaient un peu lassés de vérifier les informations, les recouper. C'est assez étonnant. Par exemple, vous voyez, pendant le Brexit, il y a eu beaucoup de la campagne du Brexit, il y a eu beaucoup de choses complètement fausses qui ont été dites.
Sécurité sociale qui devait reverser je ne sais plus combien à chaque Anglais, par exemple.
Oui, bien sûr. Et on voit aujourd'hui un certain nombre de propositions totalement fausses et de contre-vérités qui avaient été énoncées à l'époque. Personne aujourd'hui n'est revenu dessus disant ce qui vous a été dit pendant la campagne qui vous avait fait voter pour le non, et puis ils ont tout à fait le droit de voter pour pour la sortie du Royaume-Uni de l'Union Européenne, hein, ça j'ai aucun problème là-dessus. Mais en tout cas, il n'y a jamais eu de mea culpa sur ce qui a été dit. Trump a dit un nombre de contre-vérités pendant la campagne américaine totalement dingue. Il n'y a jamais eu de mea culpa et on ne lui en veut pas pour ça.
C'est ça, même été réélus. Ils ont été réélus. Les gens qui ont avoué avoir menti pendant la campagne du Brexit ont été élus dans la foulée. Ils ont été, les conservateurs ont été élus.
Je pense que cela ne pose le moindre problème.
Parce que là, il y a quand même un véritable dévoiement de la démocratie où il y a le mensonge qui devient officiel.
Absolument. Ou à partir du moment où il n'est plus sanctionné, il y a une espèce de brèche qui s'ouvre et où un certain nombre de politiques et de responsables politiques, s'accommodent de la réalité et fabriquent leur propre vérité, puisqu'ils se disent que si ils ne sont plus sanctionnés par le public et par les citoyens qui considèrent que ce qu'ils ont dit était faux, mais voilà, pour la rigueur, c'est pas très grave, on passe à autre chose, de toute façon, c'est un grand complot, on nous manipule, etc. Finalement, il a raison. Dans ce cas-là, on peut dire tout et n'importe quoi. Et là, on perd totalement la raison et on est dans un règne total de l'émotion, de la fausse vérité et on entre justement dans une société d'hystérisation totale.
C'est ce que fait exactement l'extrême droite avec l'immigration, en maquillant tous les chiffres et ça passe sans aucun problème. Et il n'y a pas en face de réponse. Mais alors là où moi, ça me pose vraiment un problème et où ça me fait peur, c'est la défiance. Et la défiance qui mine la société, une défiance qu'on dit à l'encontre des élites. Mais moi, les élites, je ne sais pas ce que c'est. Parce qu'il y a des gens de toutes opinions qui sont hyper diplômés. Et on a l'impression que les élites, c'est quelque chose qui vous déteste comme ça, mais on ne sait pas trop pourquoi, qui vous veulent du mal. Et ça fait très peur, parce que ça peut entraîner des situations. Ça me rappelle un petit peu la petite musique contre les francs-maçons, les juifs, etc., dans les années 30.
En fait, si vous voulez, cette société que je décris comme un peu hystérisée, elle est, comme je le disais tout à l'heure, elle est de plus en plus polarisée avec différentes tribus, avec des gens qui sont avec des clans qui sont très fragmentés, avec, on le note également, une montée de la colère très forte. On le constate aujourd'hui, il y a plusieurs à la fois économistes, c'est vrai qu'on écrit des développements sur le sujet, les gagnants et les perdants de nos sociétés mondialisées. On sent qu'il y a des gens qui tirent leur épingle du jeu et d'autres qui sont des grands perdants. C'est un peu on revient sur les gilets jaunes, on sent un peu qu'il y a cette ligne de partage entre les gagnants et les perdants de la mondialisation.
Et puis ceux qui ont peur aussi. Peur de perdre.
Évidemment, ceux qui ont peur de perdre, exactement. Et donc, on est face à des sociétés extrêmement fragmentées, et ces sociétés fragmentées banalisent l'affrontement. Aujourd'hui, on n'a pas peur de se clasher. Bon, comme je le disais, on est que très partiellement confronté à des vérités autres que les siennes, et du coup, on est dans des sociétés qui sont très compartimentalisées, avec un espace public qui est très très cloisonné, et donc ce cloisonnement et ces fractures sociales, cette montée de la colère que je décrivais également, font créer de ressentiments très forts, et entre gagnants perdants, on a cette sensation de fracturation et de stigmatisation de ce qu'on peut appeler les élites, donc ceux qui seraient les bénéficiaires des sociétés modernes, de la mondialisation, qui seraient un peu les leaders de nos sociétés, ceux qui prennent les décisions et qui imposent aux perdants de la mondialisation, les perdants des sociétés modernes.
Et est-ce qu'on ne serait pas un petit peu rentré dans une société, alors là on était parti sur l'hystérie, c'était déjà une première pathologie psy, est-ce qu'on ne serait pas un petit peu rentré dans une espèce de paranoïa sociétale? Parce que si on prend Lacan par exemple, Lacan il dit qu'il ne peut pas y avoir de paranoïa sans une structure de personnalité hystérique derrière. Est-ce que là on n'est pas dans une société paranoïaque qui intègre directement toute information comme étant potentiellement dangereuse?
Oui, puisque la paranoïa, elle vient aussi en partie du fait qu'on se confronte assez peu à l'autre et qu'on est dans sa bulle, et qu'on se fait pour parler de manière familière, on se fait un peu des films. Et effectivement, ce que je vous décrivais comme société très fragmentée, fracturée, compartimentalisée, chacun dans sa bulle d'informations propres, dans son petit monde à lui, avec des gens qui pensent comme lui, bah effectivement, on en devient parano, on se fait des films, on peut aller vers des tendances un peu complotistes en pensant à un grand complot, et que on l'a vu d'ailleurs, on en a vu des expériences extrêmement concrètes pendant le Covid, notamment avec autour du professeur Raoult, des vaccins, de la chloroquine. Il y a eu toute une tendance, une mouvance qui s'est un peu développée avec une France qui s'est un peu fracturée entre différents camps. Donc effectivement, vous avez tout à fait raison, il peut y avoir une base de paranoïa qui est due à un manque de confrontation à autrui, qui fait que les gens ne se mélangent pas beaucoup, ne se parlent pas beaucoup, et qui résulte de cette société très fragmentée.
Oui, parce qu'en plus, prenons le cas de Raoult, tiens, il est très bien celui-là, le président de la République s'est déplacé pour le voir, il lui a téléphoné, tout d'un coup il le met dans le jeu, au lieu d'en appeler à des experts qui effectivement pourraient débattre avec lui, que je sache, on n'est pas président de la République parce qu'on est épidémiologiste ou parce qu'on est bactériologiste, c'est pas du tout la même chose, on ne peut pas être expert en tout.
Ça n'a rien à voir, absolument, vous avez raison, mais aujourd'hui, on est dans cette société, la société que je décris, qui est une société de l'urgence, de la vitesse, de l'immédiateté, et un politique, aujourd'hui, il veut être sur la balle. Il veut être sur la balle le plus vite possible, donc il se passe quelque chose, il sent qu'il y a une tendance grandissante favorable au professeur Raoult, avec sa dégaine un peu sympa, il parle cash, justement, qui s'est fait un peu le parangon de anti-élite, l'homme de la base, qui parle au grand public, etc. Donc les politiques se sont dit, il y a un coup à jouer, et il faut bénéficier de son halo de popularité pour en récupérer un peu. Et alors qu'au contraire, il aurait été plutôt souhaitable de laisser un peu le phénomène se décanter, voir un peu si ce qu'il racontait était vrai, si ces développements sur la chloroquine étaient exacts, etc. Mais aujourd'hui, on est dans une telle immédiateté, il faut tellement se raccrocher à l'urgence que un politique il court après la balle, et ils ont voulu tout de suite tous aller auprès du professeur Raoult. Et l'exemple du Covid est un exemple intéressant, c'est-à-dire que est tout à fait conforme à ce que je raconte dans le livre, à l'hystérisation, à ce concept qu'on développe. C'est-à-dire que C'était un moment d'une incertitude totale. Personne ne savait ce que c'était. Personne ne savait d'où ça venait. Vaccin, pas vaccin. Raoult, pas Raoult. Et c'est le moment où on aurait pu se dire, apprenons un peu de la science. Voilà. Apprenons un peu à douter. On va peut-être être plus dans la pédagogie. On va avoir des gens qui vont nous expliquer de manière un peu plus approfondie ce qui se passe. Et alors, ça a été exactement le contraire. Ça a été le règne du professeur Raoult. Ça a été tous les journalistes et les Français qui sont transformés.
De Bigard aussi.
De Bigard. Tout le monde s'est transformé en épidémiologiste. Tout le monde savait mieux que tout le monde ce que c'était que le Covid, d'où ça venait, le vaccin, pas le vaccin. Donc, on en est entré dans une espèce d'hystérisation totale sur les vaccins, pas les vaccins, Raoult, la chloroquine, etc. Alors que justement, c'était un moment qui aurait pu faire la place au doute, à l'explication, à la pédagogie, à la science. Donc c'était assez intéressant.
Est-ce que la télévision n'aurait pas un rôle à jouer? Vous êtes un homme de télévision. Par exemple, dans la présentation de la jeunesse. C'est-à-dire que moi, j'aimerais bien voir à la télévision, j'en ai vu une il n'y a pas longtemps, il y a 2-3 jours, une jeune femme qui est en doctorat, qui est en train de trouver des choses absolument extraordinaires pour le HIV, pour les bases d'un vaccin contre le HIV. Il y en a beaucoup des jeunes comme ça qui sont au doctorat, qui se consacrent à la science, qui se battent pour qu'on bac plus 8, plus 10, plus 12. Et qu'est-ce qu'on voit majoritairement à la télévision quand on parle des jeunes? C'est de la télé-réalité, c'est des semi-débiles qui disent des choses absolument incroyables, qui savent à peine compter. Et est-ce qu'il n'y aurait pas une hiérarchisation à faire de ce qui est important dans la société?
Si, mais nous, on essaye au maximum de le faire, autant que faire se peut, mais dans nos journaux d'information, dans nos magazines, là, on va lancer un supplément au journal le samedi avec des initiatives positives, des gens qui se bougent pour l'écologie, pour la planète, pour la science, etc. Donc, vous avez raison, il faut mettre en avant des jeunes qui prennent des initiatives sociales intéressantes, solidaires. Nous, par exemple, on a une émission sur M6 qui est très, très forte auprès des jeunes, qui est presque un raz-de-marée, qui s'appelle « Qui veut être mon associé ?», qui met en avant l'entrepreneuriat, le fait de monter sa boîte dans l'écologie, dans différents secteurs, avec des gens qui partent souvent de rien et qui viennent chercher des fonds face à des investisseurs. Mais ça montre un visage extrêmement positif de jeunes qui se battent, qui ont envie d'y arriver, qui créent des idées, qui créent des concepts, qui ont envie que le monde soit meilleur. Donc on fait en sorte de mettre en avant une jeunesse positive, enthousiaste et dynamique. Alors après, il y a forcément des programmes qui vous diront le contraire ou qui montreront une image de la jeunesse un peu différente. Comme pour rejoindre ce qu'on se disait au début de notre conversation intéressante, j'ai quand même la sensation, de la même manière que il y a une soif de programmes intelligents avec du fond qui prônent un certain ralentissement et qui prônent des valeurs positives, je sens aussi que la jeunesse est très preneuse de contenu plus positif, plus enthousiaste, plus dynamique, plus solidaire, axé sur l'écologie. On a par exemple diffusé un grand documentaire de Yann Arthus Bertrand sur l'écologie sur M6. On a eu des scores auprès des jeunes qui étaient stratosphériques. On sent une volonté d'engagement des jeunes, on sent une volonté de forte de mobilisation dans la société et on essaie de le montrer de plus en plus. En tout cas de satisfaire leurs besoins.
Oui, parce que ce qui manque en fait dans tout ça, dans les gens qui sont enfermés dans leur bulle, qui sont pris dans les algorithmes, effectivement, vous avez raison, c'est vrai que c'est hyper pénible parce que c'est très très dur, une fois qu'on a cliqué deux fois sur un truc, vous vous en sortez plus. Et c'est pas forcément ce que vous aimez, c'est pas vous faites des recherches, vous cliquez deux fois sur Zemmour, c'est terrible, vous êtes bouffé de partout. Mais est-ce que il y a pas une façon de hiérarchiser, par exemple, ne serait-ce que l'information? Moi, j'ai l'impression maintenant tout se vaut, tout tombe. Et les matchs de foot, la guerre en Ukraine, par exemple la Syrie, moi je sais plus ce qui s'y passe depuis je sais pas combien de temps, les tremblements de terre pareil, etc. Et par contre je sais que machin a sorti un disque et tout ça, je m'en fous un peu qu'il y ait une émission culturelle à la limite pour le faire, mais j'ai l'impression que tout se vaut.
Oui, tout se vaut, et puis c'est les médias en continu, l'information en continu, l'hyper-offre, c'est-à-dire que vous avez beaucoup de supports qui vous donnent de l'information, un fait divers chasse un autre, les bisbilles entre Meghan et Harry sont au niveau qu'un séisme en Turquie.
Ouais, ça, c'est pas pareil, c'est intéressant, Meghan et Harry, quand même.
Voilà, qui fait des dizaines de milliers de morts, une élection déterminante dans un pays du monde et tout aussi importante que Carlos Ghosn qui s'enfuit dans une malle pour aller au Liban. Bon, voilà. Donc, c'est vrai qu'on est dans une société où un fait divers chasse l'autre, où une actualité chasse l'autre. On célèbre une actualité et puis on en fait table rase. Donc effectivement, je pense qu'il n'a jamais été aussi urgent et important de hiérarchiser l'information. Et d'ailleurs, nous, ce qu'on constate aussi, c'est qu'on constate un phénomène assez grave d'ailleurs, enfin grave, pas si grave que ça, mais on constate une vraie fatigue informationnelle des gens. C'est-à-dire que, et je me mets dans le lot hein, à titre personnel, en fait, je suis un peu fatigué des médias en continu, je suis un peu fatigué de cette course à l'information, et donc du coup, on a tendance un peu à tourner le dos à l'information et de se dire, bah, c'est pas très grave si je rate 3-4 jours d'infos, le monde continue de tourner, et puis j'irai me renseigner sur une information en particulier si j'ai envie, parce que ça, pour le coup, on peut le faire. L'hyper-offre de contenu, aujourd'hui, fait que vous avez envie de vous renseigner sur ChatGPT et voir toutes les conséquences de cette nouvelle intelligence artificielle, de la tester, de voir d'où ça vient, jusqu'où ça peut aller, est-ce que ça va supprimer des emplois. Ça, vous avez tout le matériau pour vous renseigner. En revanche, vous faire harceler d'informations toute la journée, parce que c'est anxiogène, c'est stressant, on n'arrive plus à les hiérarchiser, on n'arrive plus à les mettre en place, on n'arrive plus à les ordonnancer. Ça, je trouve que ça crée une espèce de sensation de mal-être à laquelle il faut mettre fin. Et je m'en rends souvent compte parce que, alors on lit de moins en moins, mais à titre personnel, j'essaie de m'astreindre plutôt à lire un livre que de lire des journaux tous les jours. C'est pas très grave si j'en rate un ou deux. Alors qu'en revanche, un livre, bah, il m'en restera quelque chose. J'entre dans un univers différent. Ça crée un imaginaire. Ça crée un rapport au temps différent. Alors que l'information, elle vous bouffe, quoi.
Je suis d'accord.
Elle vous bouffe. Elle rentre par tous les. Vous parlez que de ça et c'est généralement pas très intéressant. Vous allez rarement au fond des choses. On en reste à la surface, alors qu'un livre, même s'il n'est pas très réussi, au moins vous entrez dans la tête de quelqu'un, dans un imaginaire, dans un monde différent, vous vous évadez, et il vous en reste in fine quelque chose de beaucoup plus présent en vous et applicable dans votre vie quotidienne, ou en tout cas qui accapare plus vos cerveaux qu'une information qui vous égratigne ou qui vous passe à travers et que vous avez oublié 2 minutes après, quoi.
Ou qui vous saoule. Deuxième pause musicale, tiens, avec forcément Mass Hysteria, un morceau qui s'appelle Furia. Yeah! Hey! Nous voilà de retour pour la dernière partie de ce Bien au contraire consacré à l'hystérisation de la société, qui est le titre de l'essai de Jonathan Curiel, qui est en notre compagnie. Et vous évoquez une expérience réalisée à l'université de Stanford au sujet de l'immédiateté et qui a donné des résultats fort intéressants d'ailleurs.
Exactement. Alors ça, c'est une expérience que j'avais repérée qui s'est effectivement a été menée à Stanford en 2019 avec deux profs de communication de Stanford qui ont un espèce de centre de réflexion et qui ont rassemblé plus de 500 Américains au point de vue extrêmement divers et variés, voire très opposés, et les ont rassemblés pendant 3 jours. L'expérience s'appelle America in One Room, donc l'Amérique dans une pièce, et les a fait plancher sur les thématiques principales de la campagne présidentielle américaine de 2020, qui opposait Biden et Trump. Politique étrangère, sécurité, alimentation, immigration, économie, etc., etc. Au départ, tous ces gens-là avaient des points de vue extrêmement divers, souvent opposés. Ils les ont fait discuter entre eux, ils les ont fait rencontrer des experts, ils les ont fait plancher sur un certain nombre de documents avant de venir et sur place, pour bien sédimenter leurs pensées, bien savoir de quoi ils parlaient, parce que généralement on donne son opinion et son avis sur des choses qu'on ne connaît pas. On le fait tous, et voilà. Et donc, avec ce système et cette expérience qui a duré 3 jours, ils étaient. Il y avait au final 26 propositions au départ. Pour 26 propositions sur les différents items qu'on a évoqués, ils étaient globalement très opposés. Au final, après discussion, après échange, après intervention des experts, ils se sont rejoints, les participants, les 500 participants, se sont rejoints sur 22 propositions sur 26.
C'est pas mal.
Des grandes thématiques de société, ce qui était loin d'être le cas au départ. Et c'est extrêmement étonnant, surprenant et même encourageant. C'est-à-dire qu'on se rend compte qu'avec un échange approfondi, avec une meilleure délibération, les citoyens se dépolarisent. On passe notre temps à parler de société polarisée, de dire que plus personne ne peut se blairer, se parler, que les gens se clashent sur les réseaux sociaux. Mais la réalité, c'est qu'en fait, les gens ne parlent plus. À l'époque, il y avait le bistrot, il existe encore, mais de moins en moins, ils pouvaient discuter, ils pouvaient s'engueuler, mais à la fin, on trouvait un terrain d'entente. Et ben là, on se rend compte que avec du fond, avec des spécialistes, avec des gens qui présentent les différents points de vue des uns et des autres, qui parlent de faits, uniquement de faits, et pas de d'opinion, parce qu'on est aujourd'hui, comme vous le disiez au début, dans le règne de l'émotion, dans le règne de l'opinion, mais qui présentent des faits, derrière les gens qui parlent entre eux, même quand ils ont des points de vue différents, à la fin, on arrive à se mettre d'accord. Alors, l'idée, c'est pas de dire il faut que tout le monde soit d'accord dans la vie, loin de là, sinon la vie serait très ennuyeuse. Mais en tout cas, il y a toujours matière à consensus, il y a matière à discuter, à se mettre autour d'une table et à discuter des choses de manière approfondie.
D'avoir une opinion éclairée.
L'idée, c'est d'avoir une opinion absolument éclairée après avoir discuté, après avoir échangé, après s'être renseigné.
Peu importe qu'elle soit à droite, à gauche, au milieu, mais elle est éclairée.
À la rigueur, vous avez tout à fait raison, c'est pas le sujet. On a tout à fait le droit d'être de quelque bord que ce soit, mais il faut dépasser l'opinion systématique des réseaux sociaux où on est renseigné sur rien et on est sûr de soi, parce qu'on est d'autant plus péremptoire qu'on n'a pas de. Plus on doute, plus on connaît sur le sujet en réalité. Et plus on est péremptoire, moins on s'est renseigné. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont remis le couvert sur un autre sujet très, très matière à hystérisation, si je peux me permettre, qui est l'énergie, tout ce qui est problématique climatologique, etc., aux États-Unis, qui donne lieu à des affrontements terribles. Donc, cette expérience a été renouvelée en 2021 sur la thématique du climat et de l'énergie. Et pareil, ils ont rassemblé, là, cette fois-ci, 1000 personnes. Et c'est de la même manière, ils ont réussi à créer beaucoup plus de consensus qu'au départ, au bout de 3 ou 4 jours de discussion.
C'est pas un petit peu ce qu'on a fait en France avec cette histoire d'assemblée citoyenne, avec 150 citoyens tirés au sort pour l'écologie, et qui ont été capables de sortir un nombre incroyable de propositions.
Oui, concrètes. Absolument. Alors l'idée était pas exactement la même. Là, on les a pour le climat, on leur a demandé de sortir des propositions qui apparemment, si je comprends bien derrière, ont été un peu filtrées, qui n'étaient pas le.
Rien qui sera repris.
Voilà, qui n'est pas retenu, ce qui apparemment n'était pas le deal de départ. Mais là, si vous voulez, l'expérience American One Room à Stanford était d'une certaine manière presque moins ambitieuse. C'est-à-dire que l'idée, c'était juste de rassembler des gens gens et de voir comment leur position évoluait, pas forcément de formuler des propositions. La formule française était un peu plus ambitieuse, voire un peu plus irréaliste, si je peux me permettre, c'est-à-dire qu'elle avait pour ambition de soumettre aux législateurs des propositions qui seraient adoptées derrière. Là,
sans filtre.
Sans filtre, exactement. L'entreprise américaine était à la fois plus ambitieuse dans la masse, c'est-à-dire que 500 000 personnes, mais elle était moins dans le contenu, c'est-à-dire qu'elle avait juste vocation à montrer que l'on peut dépolariser avec une meilleure délibération publique. Et on se rend compte que la délibération publique, aujourd'hui, elle est totalement défaillante en France et dans un certain nombre de pays, aux États-Unis au premier chef. Elle a pas d'écrin, elle a pas de socle. Les gens ne se parlent pas entre eux et il n'y a pas d'enceinte dans laquelle les gens peuvent échanger et peuvent prendre des décisions éclairées à partir d'une matière factuelle.
Ben, le problème de la délibération publique en France, c'est qu'on est avec un pouvoir politique qui est thatchérien. C'est-à-dire qu'à chaque décision, on se heurte au fameux TINA. Il n'y a pas d'autre alternative. Donc, il n'y a pas de délibération à avoir, puisqu'il n'y a pas d'autre alternative. Que quand il y a une réaction en face, on dit qu'on a manqué de pédagogie. C'est parce que vous n'êtes pas très très malin. Ils l'ont dit carrément. Peut-être qu'on dit, c'est Legendre, je crois, qui a dit ça. On est un peu trop intelligent pour les Français. On a manqué de pédagogie. On va vous expliquer. Enfin, c'est pas une délibération, ça. C'est un diktat.
Oui, c'est sûr qu'en France, il manque, et en tout cas, on sent, mais depuis plus d'une dizaine d'années, voire une vingtaine d'années, on sent que le politique tourne autour de cette façon d'une meilleure délibération publique. On n'y arrive pas. Il y a souvent cette sensation de verticalité.
Et d'émotionnel.
Et d'émotionnel qui nous paraît gênante et on n'arrive pas à rassembler les Français, on n'arrive pas à raconter une histoire, enfin mais dans le sens positif du terme, hein, raconter une histoire, pas dans le sens
cap. Le récit national.
Voilà, exactement. On n'a plus de récit mobilisateur aujourd'hui, on n'a plus de cap. On n'arrive pas à avoir un récit commun pour dire voilà les amis, on va dans 10 ans dans telle direction et pour arriver à ce point-là, il nous faut faire telle réforme ou telle et telle mesure et on en a vraiment besoin parce que dans ce cas-là, on va être décroché, on va être ceci, on va être cela. Un coup, on nous sort des arguments qui vont dans un sens, un coup, c'est des arguments qui vont dans l'autre sens. Du coup, les gens sont perdus et ne comprennent pas. Et donc, du coup, les gens ne sont pas embarqués dans ce qu'on leur demande et se disent pourquoi est-ce qu'on fait ça? Et la délibération publique, à quoi ça sert? Et une meilleure délibération publique permet d'impliquer les gens, permet de les embarquer en tenant compte de leur avis. Après, on est dans une démocratie, hein. Il y a quand même quelqu'un qui a été élu, les gens ont mis des bulletins dans des urnes. Donc, normalement, il y a un mandat derrière qui permet que. Mais aujourd'hui, on se rend compte que les Français veulent aller au-delà. En fait, ça ne suffit plus. Les gens veulent être impliqués, les gens veulent être concertés, veulent être concernés. Et il faut qu'on leur donne des explications claires et concrètes et précises. Et il ne faut pas penser que les Français ne comprennent pas ou il ne faut pas dramatiser la situation inutilement. Il ne faut pas faire peur inutilement. Mais il faut faire acte de plus de pédagogie. Mais pédagogie dans le sens noble du terme.
Et d'autant plus qu'on vote plus maintenant par défaut que par autre chose. On arrive à la fin de l'émission. C'est vrai que vous avez bien promu la littérature aussi dans votre essai, qui est un temps long qui rend impossible cette dramatisation, justement, parce qu'il mobilise la réflexion. Et je finis, est-ce que vous pensez...
Et d'ailleurs, pour revenir à ce que vous dites, je ne suis pas sûr que beaucoup de politiques lisent beaucoup.
Non, ils n'ont pas le temps.
Ils n'ont pas le temps et je ne suis pas sûr que ça les intéresse.
Mais il y a un truc que moi j'aime beaucoup, c'est la place, c'est arriver à replacer de l'humour et de la légèreté un peu dans tout ça.
Et ah bah oui, on prend
l'exemple de l'arrêt des guignols. C'est vrai que c'était purement et simplement de la censure. L'attentat contre Charlie Hebdo, c'est pas par hasard que ce qu'on s'attaque à l'heure actuelle. Et je reviens aux États-Unis, on n'a jamais vu autant de censure contre des livres qu'aujourd'hui aux États-Unis.
Bien sûr. Mais l'humour, je trouve que c'est patrimonial en France. Déjà, c'est quelque chose de. On peut en penser à des proches, à Coluche, à Le Luron, à tout ça. Enfin voilà, ça a toujours été des actes de. Ça a toujours été des actes de résistance. Ça a toujours été un moyen de. J'en parle dans le livre parce que l'humour, ça permet de déshystériser une société. Ça permet déjà de changer de perspective. Ça permet de prendre de la hauteur. Ça permet de prendre du recul. Ça permet de faire un pas de côté par rapport à la réalité et du coup de faire baisser la température. Les guignols avaient ces vertus-là, plein d'émissions d'humour, Je parle pas des petites chroniques un peu parisiennes qui s'adressent au microcosme. Je parle de grandes émissions d'humour ou de grands humoristes qui avaient une vision un peu de la société. Aujourd'hui, il y a plus rien. Il n'y en a plus du tout, en fait.
Non.
Aujourd'hui, on est sur des humoristes qui sont sur des niches. Chacun choisit son segment marketing, fait rire un certain nombre de personnes qui se sentent concernées. Soit c'est des jeunes, soit c'est X communes. Enfin voilà, chacun fait rire un peu son segment marketing. Mais des grands humoristes qui s'attaquaient à la société, qui s'attaquaient à la politique, qui faisaient un peu trembler les différents régimes. Mais ça, je trouve qu'on en manque cruellement. Et ça a aidé beaucoup à faire baisser la température et à déshystériser d'une certaine manière la société.
Eh ben moi, je vous donne une idée pour un prochain essai, c'est « Reste-t-il encore une société ?» Ça, c'est pas évident.
C'est très juste. C'est tout l'enjeu. Ça devrait être un enjeu politique et ça devrait être un enjeu associatif et général, parce qu'effectivement, on ne fait plus société. Vous savez que l'origine étymologique de société, c'est allié.
Oui.
C'est le mot allié. Et aujourd'hui, effectivement, on n'a pas la sensation.
On a plus d'ennemis que d'alliés.
Voilà, exactement. On a la sensation d'être des ennemis, pas des alliés. Vous voyez, dans le métro parisien, on n'a pas l'impression d'être des alliés. L'impression d'être des ennemis quand vous voyez les klaxons, quand vous voyez l'agressivité dans la vie quotidienne, quand vous voyez le manque de sourire, le manque de calme, le manque de sérénité, le manque d'apaisement. Voilà, je trouve que la société, elle va pas très bien. Et paradoxalement, pour finir et pour rejoindre ce qu'on se disait tout à l'heure, je pressens, mais je sens une envie des gens de bienveillance, d'actes de solidarité, d'infos positives, justement une envie forte de faire société, mais qui ne prend pas corps. Et je n'arrive pas à voir comment ça se résout, où est-ce que le bât blesse. Mais je sens, même à travers la consommation de médias et télé et radio et ce que les gens en recherchent, il y a une envie de faire société. Mais il faut remettre cette société à l'endroit et il faut lui donner envie de refaire corps.
Ouais, il faudrait peut-être que les politiciens arrêtent de tirer dans l'autre sens. Nous, on n'a pas de problème ici. Hein. Pierre-Yves, on n'a pas de métro. Même les vaches, elles sourient, et même quand il pleut. Merci beaucoup, Jonathan Curiel, pour cet éclairage. J'espère que nous aurons contribué à apaiser, ne serait que quelques minutes, les échanges, ou du moins donner des pistes pour y parvenir. Merci beaucoup. Je rappelle
un grand merci à vous.
Je rappelle le titre de votre essai, c'est La société hystérisée, qui est paru aux éditions de l'Aube dans la collection Suspension. À bientôt pour un nouveau numéro de Bien au contraire. Vous écoutiez Bien au contraire, l'émission qui réfléchit sans en avoir l'air, sur les ondes de Radio Évasion, bien sûr. Nous nous retrouvons le mois prochain pour un nouveau thème à explorer. Bye bye.